Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Rassemblement en soutien au peuple libanais contre les massacres israéliens, c'était hier soir, place des Terreaux. Véronique Sarcelli, nouvelle présidente de la métropole de Lyon, va aussi présider le Citral. Colère de Grégory Doucet après la fin annoncée des zones à faible émission, les fameuses ZFE. Le magasin boulanger du centre commercial Carré de Soie à Vaux-en-Velin fermera ses portes au mois de mai. La question également du financement et de l'accompagnement des associations qui agissent pour la transition écologique. Les subventions sont en baisse. Focus aujourd'hui sur la mission de Domoro, un fonds de dotation lyonnais créé par la famille Rousset il y a bientôt 6 ans. Un reportage de Noam Mouret.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'organisation des Libanaises et Françaises Associées, une association qui mène des actions à caractère social, humanitaire et culturel en faveur de l'intégration des femmes libanaises résidentes en France, appelait hier soir à un rassemblement en soutien au peuple libanais contre les massacres israéliens. Le rassemblement s'est tenu place des Terreaux. Les frappes israéliennes se poursuivent au Liban alors que Beyrouth et Tel Aviv ont annoncé mardi vouloir entamer des négociations en vue d'une paix durable. Ce soir à 18h, c'est devant le palais de justice des 24 colonnes que le collectif de soutien au peuple palestinien organise un rassemblement contre la loi Bayon-Yadan et la criminalisation du soutien à la Palestine. La proposition de loi de Caroline Yadan vise à lutter, je cite, contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Son examen doit commencer aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Comme c'était le cas sous la présidence de l'écologiste Bruno Bernard, Véronique Sarcelli, présidente LR, nouvellement élue présidente de la métropole, a décidé d'être aussi à la tête de l'autorité organisatrice des mobilités sur le territoire, à savoir la puissante entité Citral Mobilité. Sarcelli a d'ores et déjà annoncé l'abandon du Théol, le tramway express de l'Ouest lyonnais. Elle veut relancer le métro E, également annoncé durant la campagne, un méga-tunnel appelé Nouvelle Traversée de Fourvière, long de 8 km entre Valvert et Saint-Fond. Véronique Sarcelli entend surtout, dans un premier temps, organiser des assises de la mobilité qui se tiendraient en septembre. Mise en place le 1er janvier 2023, la zone à faible émission a du plomb dans l'aile. En votant pour le projet de loi de simplification, les députés ont ainsi choisi la suppression de ce dispositif spécifique en vigueur dans 10 agglomérations en France, dont Grenoble et Lyon. À Lyon, on commençait tout juste à ressentir les effets avec une baisse significative de la pollution, explique Grégory Doucet. Les grands perdants de ce vote à l'Assemblée nationale, ce sont les Lyonnaises et les Lyonnais, et notamment les plus fragiles, les enfants, les aînés, les habitants des quartiers populaires, énumère le maire écologiste récemment réélu. La ville de Lyon appelle le gouvernement à revenir sur cette décision en renforçant l'accompagnement des propriétaires pour le changement des véhicules les plus polluants. La suppression des ZFE acte la fin d'un dispositif qui, au nom de l'écologie, a exclu les plus précaires de nos villes, notamment à Lyon. Se félicite pour sa part le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver. Un recours auprès du Conseil constitutionnel est toujours possible, le lien entre les ZFE et la simplification économique n'étant pas clairement établi. Le magasin boulanger du centre commercial Carré de Soie vit ces dernières semaines. Cette décision de fermeture s'inscrit dans un plan visant à faire évoluer notre présence au sein de l'agglomération lyonnaise, explique le groupe. Boulanger a rénové ses sites de Bénaud et de Cordelier en 2025 et 2026 et entend désormais concentrer ses investissements sur un magasin plus grand aux couleurs de la nouvelle charte de l'entreprise au cœur de la zone de Saint-Priest, explique le communiqué.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
Financer et accompagner des associations qui agissent pour la transition écologique, c'est la mission de Domoro, fonds de dotation lyonnais créé par la famille Rousset il y a bientôt 6 ans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de ceux qui bénéficient de ce soutien sur le terrain avec Noam Mouret.
Les associations françaises sont aujourd'hui face à un paradoxe. Jamais les besoins n'ont été aussi grands, jamais les financements n'ont été aussi incertains. Alors, quelques-unes trouvent des partenaires inattendus pour grandir. C'est le cas d'Arthropologia, association lyonnaise qui œuvre depuis 25 ans pour la protection des pollinisateurs, grâce notamment au fonds de dotation Domoro. Caroline Sabat est la directrice administrative et nous explique concrètement en quoi cette aide est précieuse et primordiale.
Tout d'abord, je pense que c'est important de dire que Domoro nous apporte beaucoup plus qu'un financement. Alors bien sûr, il y a un soutien financier qui est très conséquent et qui nous a permis de franchir un cap dans l'évolution de l'association. Ça nous a permis de nous structurer, de recruter et d'accompagner le changement d'échelle. Mais il y a surtout tout ce qu'il y a autour aussi. L'accompagnement qu'on peut avoir régulièrement, le regard extérieur sur nos projets, des temps d'échange entre pairs qui nous ont proposé avec d'autres associations et le financement d'un coach pour accompagner l'évolution de l'association et toute la réorganisation. Donc je dirais que c'est pas seulement un mécène qui finance, mais c'est vraiment un partenaire qui nous a aidés, qui nous aide toujours à grandir. Et il y a aussi, je pense, un autre aspect très important, c'est le fait qu'un fonds comme Domoro, qui nous fait confiance, eh ben, ça donne vraiment de la force à notre projet, à nos actions, ça crédibilise tout ça. Et ça nous a aussi ouvert la porte vers de nombreux autres mécènes. Parce que nous, le mécénat, ça a commencé en 2021. On avait à peu près 2000 euros de mécénat dans notre budget. Et en 2026, aujourd'hui, on a plus de 350 000 euros. Donc ça représente près de 25% de notre budget. Et tout ça, ça a été accompagné par Domoro.
Et alors, cet apport financier se matérialise comment concrètement ?
Alors, l'apport financier, ça nous a permis de recruter deux personnes. Une personne à la coordination administrative et financière. Notre budget ne cessant d'évoluer, tout ce qui est administrative et comptable, on a dû renforcer cet aspect-là. Et puis, toute la partie communication aussi. On n'avait pas de chargé de communication, donc ça nous a permis d'embaucher une personne et ça nous a donné de la lisibilité vraiment à l'échelle nationale autour de la thématique des pollinisateurs.
On le comprend, avec Arthropologia, Domoro revendique un rôle de partenaire, bien au-delà du soutien financier. Mais concrètement, comment le fonds sélectionne-t-il les associations qui l'accompagnent et autour de quelles priorités ? Élément de réponse avec Nicolas Deporteur, délégué général de Domoro.
Alors, c'est pas facile, parce que déjà, on reçoit beaucoup de projets. Comment on fait pour les sélectionner ? Ce qu'on a décidé de faire, nous, déjà, c'est de s'entourer. On fait pas ça tout seul. Comme tu l'as dit, Domoro a été créé par une famille, la famille Rousset, mais qui a la volonté de s'entourer, notamment de tiers experts, qui peuvent nous apporter de l'expertise sur les projets qui nous sont soumis. Donc on va, avec l'équipe opérationnelle, identifier des projets qui nous semblent pertinents. On va les analyser, les instruire. Et ensuite, on va les analyser dans le cadre de comités qui rassemblent à la fois des administrateurs, l'équipe opérationnelle et des experts extérieurs. Si on prend les sujets d'agriculture durable, par exemple, on va s'entourer d'experts agronomes, d'agriculteurs également, qui vont pouvoir nous donner leur point de vue sur le projet qui nous est présenté. Et si le point de vue est positif, à ce moment-là, on peut allouer un financement.
Il me semble que vous défendez trois axes clairs et que vous les revendiquez. Quels sont-ils et pourquoi les avoir choisis ?
Globalement, on essaie de soutenir surtout des associations qui agissent dans ce milieu de la transition. Là-dedans, on va avoir une focale sur les sujets d'agriculture durable et d'alimentation. Quelque chose que nous faisons depuis l'origine, depuis 6 ans. Pourquoi ? Parce que l'alimentation, c'est finalement quelque chose qui nous rassemble tous, qui est au croisement de beaucoup de préoccupations, que ce soit la santé, bien évidemment, les sols, l'environnement, la dégradation de nos écosystèmes, les sujets de biodiversité. Voilà. L'alimentation, ce sont vraiment des sujets qui nous rassemblent. Donc on a cet axe-là. À côté, on a un axe qu'on appelle société durable, qui est un peu plus large, qui va nous amener à soutenir des structures qui essaient de challenger un peu le cadre de vie dans lequel on évolue. On s'est rendu compte que finalement, aujourd'hui, les injonctions individuelles à consommer différemment, à produire différemment, étaient de plus en plus mal perçues par le grand public, parce que quand on essaie de faire des efforts soi-même et qu'on voit que le cadre autour de nous n'évolue pas, c'est difficile, ça crispe, ça peut pousser à l'inaction. Voilà, donc maintenant, on essaie de soutenir des associations, si tu veux, qui essaient de challenger le cadre, les règles, les institutions qui, justement, régissent notre quotidien, notamment à travers du plaidoyer. Et la dernière axe que nous avons développé l'année dernière et qui est en cours de construction, c'est un axe plutôt santé, soins, où là, on va aller soutenir des associations qui soutiennent les aidants familiaux. Pareil, on est sur un sujet d'ampleur, on est face à une crise démographique, il y a de plus en plus de personnes âgées en France, on le sait, de même qu'il y a de plus en plus de personnes dépendantes, isolées, et donc c'est important de soutenir les personnes qui viennent en aide aux aidants, c'est-à-dire les aidants, c'est toi, c'est moi, tout le monde peut être aidant un jour dans sa vie vis-à-vis d'une personne en situation de dépendance.
Vous participez aussi à la rénovation du chalet du parc de la Tête d'Or, il me semble. Quel est votre rôle là-dedans et puis quel sera le rôle plus concret de ce lieu pour les Lyonnais ?
Alors, projet exceptionnel, la rénovation du chalet du parc de la Tête d'Or. Alors, on est énormément impliqué dedans à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'implication d'Evolem, qui est le family office de la famille Rousset, qui participe au financement de la réhabilitation du site. donc les gros travaux, si tu veux, pour réhabiliter le bâtiment. Et nous, Doumoreau, derrière, on vient financer une partie du travail de l'association Chalet du Parc, qui, elle, opérera des projets d'intérêt général à l'intérieur des murs. Voilà comment on est impliqué. Donc, on finance une bonne partie de tout ce projet, et puis on met des ressources à disposition. C'est un projet dont je pourrais te parler pendant des heures. C'est un projet qui rassemble de nombreux acteurs, les deux principaux étant donc la Fabuleuse Cantine, qui est un concept de restauration anti-gaspi, qui existe déjà à Saint-Étienne, à Lyon, à La Rochelle. Donc, il va proposer une offre de restauration bio, locale, de saison, 7 jours sur 7. Sur place à emporter, voilà. Et puis à côté, on retrouve l'association Chalet du Parc, l'association qui, elle, va mettre en avant des initiatives qui s'engagent pour le territoire à travers des expositions, à travers un dispositif exceptionnel qu'on appelle un Serious Game, qui sera centré sur le sujet de forêt, qui va proposer de accueillir des publics scolaires, des publics associatifs pour discuter, échanger autour de ces grands sujets de transition, et qui, globalement, va accueillir le grand public qui viendra déguster la cuisine de la Fabuleuse Cantine pour leur proposer et bien une expérience peut-être un peu plus poussée en participant au dispositif que propose l'association.
Derrière le soutien financier, Doumoreau entend aussi jouer un rôle de facilitateur et d'accélérateur auprès d'associations engagées sur le terrain. Le fonds veut ainsi aider ces structures à se développer et à inscrire leurs actions dans la durée.
Merci Noam. Sous la menace depuis plusieurs mois, l'ASVEL a été interdite de recrutement et sanctionnée d'une amende de 25 000 euros par le gendarme financier de l'Euroleague en raison d'infractions aux règles du fair play financier. Le club de Tony Parker doit verser 1,3 million d'euros à ses joueurs pour que cette interdiction qui concerne joueurs et entraîneurs soit levée. Cette somme correspond à la différence entre la masse salariale planchée requise par l'Euroleague pour ses 13 clubs actionnaires, soit 5,8 millions d'euros, et celle de l'ASVEL pour la saison en cours. L'ASVEL, dernière du classement d'Euroleague, s'interroge d'ailleurs sur son avenir dans la compétition avec la création annoncée à l'horizon 2027 de la NBA Europe. Un mot de rugby également, le top 14. Le Loup ne pourra pas compter sur Baptiste Couillou à Clermont, victime d'une commotion fin janvier à La Rochelle. Le demi de mêlée et le capitaine du Loup est toujours à l'arrêt. Il ne jouera pas samedi à Clermont et aucune date de retour n'est pour l'instant annoncée. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour la dernière édition de la semaine.